Voilà la fête magnifique qui conclut le temps de Noël. Demain, ce sera le baptême du Seigneur, la théophanie, mais ce sera pour le sens de cette venue, apparition, manifestation. Théophanie, c'est la manifestation du Verbe. Là, le Verbe se montre, il est pure lumière. C'est Noël, c'est l'épiphanie, c'est la même chose. Ils viennent, cette fois-ci, on se concentre non plus sur les bergers, les pauvres d'Israël, mais le petit reste d'Israël, dont Marie, Joseph faisaient partie, petit reste de croyants dans un pays qui avait été gangréné par l'incroyance du paganisme. Eh bien voilà que du paganisme, du fin fond des royaumes païens, de l'Orient, eh bien viennent trois rois, trois mages. L'Orient, c'est à la fois un symbole de sagesse, et c'est aussi le berceau de la vie, c'est là que les Hébreux situaient l'Éden, d'une manière très vague et confuse, sans savoir où c'était, mais vers l'Orient. On savait ça de l'Écriture. L'Orient est donc la source. La source, c'est-à-dire, c'est une démarche de recherche de la vérité. Ça ne veut pas dire que les mages d'Orient possédaient la vérité, sinon ils n'auraient pas eu besoin de se déplacer. Mais ils étaient habités par le désir de la vérité. Et c'est ça, l'Orient, ce pays de la sagesse, synonyme de sagesse. C'est pas ce qu'on a, c'est ce qu'on désire avoir. Et qu'est-ce que la sagesse? La sagesse est source. Elle fait remonter à la source. La source de quoi? Eh bien, la source de la vie. Le but ultime de la sagesse, c'est de découvrir le sens de la vie. C'est aussi bête que ça, mais c'est d'une telle profondeur le mystère de la vie. Il a fallu que Jésus vienne nous le révéler, parce que nous, on s'arrête à la terre. Donc, le sens de la vie, c'est d'arriver à la tombe, et au-delà, il n'y a plus rien. Mais ça, c'est pas le sens de la vie. Le sens de la vie, c'est la création, c'est l'amour de Dieu pour nous, c'est pour toutes ces créatures, au point d'avoir rendu capable de relations avec lui certaines d'entre elles, les hommes, les anges. Et c'est lui la source des créatures spirituelles. Voilà le grand sens de la vie, mais pour le découvrir, tant d'efforts pour ceux qui désirent le découvrir. Quant à ceux qui ne désirent pas le découvrir ou qui sont découragés par les obstacles qu'ils rencontrent, ils sont si nombreux. La sagesse, elle est toujours inaccomplie, elle consiste à chercher Dieu. L'homme doit désirer la sagesse, c'est notre vocation, ce n'est pas un luxe. Beaucoup trop de gens considèrent que c'est un luxe. Mais chercher, découvrir le sens de la vie, dans sa plénitude, s'entend, eh bien c'est la vocation de l'homme. Et pour les mages, eh bien, la science, la sagesse, conduit à la foi. Il y a un itinéraire, science-connaissance, connaissance qui conduit à la foi, et la foi en Jésus-Christ nous conduit jusqu'à la vie, à la plénitude de la vie. Mais la connaissance en soi n'est pas suffisante. Il faut découvrir l'amour. Et c'est seulement là que la science, la connaissance devient une sagesse. La sagesse, c'est l'illumination de tout l'homme, de l'âme tout entière, dans toutes ses grandes facultés, à savoir l'entendement d'un côté, et le cœur, la volonté de l'autre. C'est l'ensemble qui fait le don de sagesse, nous dit saint Thomas d'Aquin, qui le distingue du don de science, du don de prudence et des autres dons de l'Esprit-Saint. L'étoile, elle représente la providence divine. C'est pour ces hommes, donc, qui viennent de l'Orient, qui sont des païens, mais qui sont à la recherche de la sagesse, de la vérité, eh bien, l'étoile symbolise cette intelligence qui est éclairée par Dieu. On pourrait dire qu'il s'agit d'une intuition qu'ils suivent, une intuition qui vient d'en haut, ils ne savent pas trop d'où elle vient, ils ne savent même pas où elle va les conduire, mais ils la suivent avec confiance dans leur méditation. Et cette intuition, elle est suivie par par les sages, elle n'est pas encore la révélation. C'est des signes qui sont donnés en fonction de ce que sont ces hommes, qui s'adaptent à chacun. Les signes de Dieu, les clins d'œil de Dieu. Benoît XVI écrivait à propos des mages, « Pour eux, la lumière de Dieu s'est montrée comme chemin, comme étoile, qui guide le long d'une route pleine de découvertes. » Ces découvertes sont faites en fonction de ce que l'homme est dans sa culture, dans ses relations au monde et aux êtres qui le composent. L'étoile guide les mages jusqu'où ? Pas directement à Bethléem, pas directement à l'enfant. L'étoile va guider les mages jusqu'à Jérusalem et dans un but très précis d'entrer en relation avec les scribes, c'est-à-dire avec l'Écriture sainte, avec la Bible. Et l'étoile disparaît à partir du moment où ils arrivent à Jérusalem. Elle s'efface humblement devant la révélation divine. Et ils reçoivent la révélation divine. Vous voyez, c'est le cheminement vers la foi qui nous est tracé par la démarche des anges. Et puis, lorsqu'ils quittent Jérusalem, ils ont la révélation, ils savent que c'est à Bethléem, mais ils ne savent pas où exactement. Et à nouveau, l'étoile reparaît, parce que Dieu est un Dieu vivant. La parole de Dieu, c'est celle de celui qui est la source de la vie, c'est pas seulement une parole morte. Et donc l'étoile reparaît. Et elle coexiste cette fois-ci avec la connaissance théologique, avec la connaissance de la révélation. Cette étoile nous accompagnera toute notre vie. Elle accompagne tous les chercheurs de Dieu et jamais elle ne les laisse, sauf lorsqu'elle s'efface devant Dieu d'une manière ou d'une autre, comme elle s'efface ici devant la révélation. C'est cette nouvelle pérégrination, ils sont dans la joie, parce que cette étoile manifeste la présence de Dieu dans leur vie. Mais on voit encore qu'elle est indirecte, puisque cette étoile qui est présence de Dieu, comme une présence angélique en quelque sorte, va les prendre par la main et les conduire à la présence avec un P majuscule, celle du Verbe de Dieu incarné dans notre monde. Et ils arrivent ainsi à la découverte de l'enfant. On pourrait comparer la démarche des mages avec celle d'Abraham, c'est-à-dire avec le thème de la foi. Il était dit à Abraham, « Quitte ton pays, la maison de ton père, c'est-à-dire quitte ta culture, quitte ton mode de pensée, parce que je vais t'en imprimer, t'en communiquer un autre. » Les mages font de même, ils quittent leur pays. Il y a le thème des étoiles aussi, que Dieu montre à Abraham comme signe de la promesse. Là, c'est pour sa descendance, et là, c'est une étoile qui les guide carrément. Mais dès le temps d'Abraham, ces étoiles prises comme témoins sont des signes de la promesse, des signes qui viennent d'en haut de la même façon que pour les mages. Puis il y a aussi l'enfant qui est totalement improbable pour Abraham qui est centenaire et Sarah aussi. Et là, c'est pareil pour les mages. Un enfant complètement improbable puisque c'est Dieu lui-même qui vient au milieu de nous. Personne, aucune religion n'a pu imaginer ça. Même les Grecs qui aimaient bien les dieux si proches des hommes, leur divinité au pluriel était un prolongement de l'humanité. Simplement, ils étaient au-dessus, dans le nirvana, enfin l'équivalent du nirvana, l'Olympe. Et ils aimaient visiter les hommes. Mais ce n'est pas des incarnations, ça. C'est des visites, simplement, et des illusions. Dieu, lui, vient embrasser notre condition humaine, toutes nos limitations. Et pas seulement nos joies, mais aussi nos ténèbres. Ça, c'est l'incarnation du Verbe. Cet enfant, c'est la lumière de l'amour. comme consécration à la vérité. Là, les mages, qui regardaient dans la direction de la vérité, de la recherche de la sagesse, eh bien, découvrent l'amour à travers les traits de cet enfant. Parce que l'enfant, c'est vraiment ce qu'il incarne. Et Dieu a voulu d'abord montrer l'amour, avant de montrer, eh bien, ça, ou toute puissance, ou toute omniscience. Regardons la crèche. L'étoile, c'est le signe de la présence de Dieu sur la terre. Elle était ténue, délicate, et l'enfant, eh bien, qui est dévoilé par l'étoile, est une lumière tout à fait ténue, elle aussi fragile. Cet enfant, c'est la réalité du mystère divin. Dieu, parce qu'il est amour, eh bien, d'une certaine manière, est fragile. On le décourage facilement et en même temps, on ne le décourage jamais. Mais on le blesse facilement, comme on a blessé le cœur de Jésus sur la croix. L'adoration des mages, les trois présents qu'ils remettent à l'enfant, je les vois bien comme un symbole des trois puissances de l'âme, l'entendement, la volonté et la conscience de soi, qui sont illuminées toutes les trois. Et toutes les trois font leur hommage. L'intelligence pour le don de la sagesse de Dieu qui a décidé de s'incarner, de venir nous révéler la profondeur inouïe de son mystère, la volonté, le cœur, ce Dieu qui nous aime et qui demande à être aimé de nous en retour. Eh bien, oui, les mages, l'homme, consacre son cœur à Dieu, pas seulement son intelligence, et sa conscience. Notre conscience est complètement illuminée par le mystère de l'incarnation. Le sens de la vie nous est révélé par ce Dieu qui vient au milieu de nous. Et la grande révélation qui nous vient, en plus du mystère, c'est qu'il ne nous laissera pas seuls. Il est venu nous chercher, il est venu nous sauver, c'est la révélation, eh bien déjà, de la rédemption de tous les hommes, et pas seulement d'un clan, d'un peuple élu. La foi, l'enfant, c'est ce que le texte de Matthieu nous dit. Quand ils virent l'étoile, ils entrèrent dans la maison, ils virent l'enfant avec Marie, sa mère. La révélation de l'Immaculée Conception, ce n'est pas un plus, une petite chose inutile pour décorer, qu'on aurait attribué à la Vierge Marie par convenance. Il convenait que la mère de Jésus fût totalement pure. Ça va bien au-delà. Ils entrent, les mages, dans une profonde contemplation. Dieu, à la crèche, les fait déjà entrer dans cette contemplation. Ils devront l'intérioriser, l'approfondir. Mais la contemplation, c'est quoi? C'est la femme radieuse d'Apocalypse 12. Elle qui donne naissance à l'enfant. Et donc, ils voient, enfin, confusément, mais ils sont introduits dans le mystère de l'Immaculée tout autant que dans le mystère de l'incarnation du Verbe, et en même temps. Et ils sont également introduits dans le mystère de la monstruosité du dragon, du diable, qui veut anéantir l'enfant, le monde et son esprit ténébreux. Et c'est pourquoi ils seront avertis en songe, eh bien, de ne pas retourner chez Hérode, qu'ils identifient au dragon, l'ange leur permet de comprendre toutes ces choses. Donc, ils virent l'enfant et la mère. Et ça, c'est vraiment, Marie est déjà présente. Elle n'est pas seulement un instrument secondaire. Elle est fondamentale dans l'incarnation. Et elle est révélée aux mages à cause de cela. Donc, ils repartent dans leur pays par un autre chemin. C'est l'image de la conversion. Une vie nouvelle, voilà ce qu'ils ont acquis dans ce voyage. Là, pour nous, c'est intérieurement qu'on fait ce voyage-là. Par la liturgie, chaque année, nous le faisons d'une manière spéciale. La lumière se lève, comme disait le prophète Isaïe, sur un monde qui gît dans les ténèbres. Et ça, c'est le grand cadeau de l'incarnation du Verbe. Oui, le Seigneur est né, la lumière a resplendi, c'est ce que les mages obtiennent. Révélation inimaginable, révélation inouïe, et nous, nous avons la chance de vivre tous les jours de notre vie à cette lumière. Alors ne gaspillons pas l'amour divin. Donnons à Jésus ce qu'il veut, notre amour.